Matière à penser, Antoine Garapon.
Matière à penser qui vous emmène ce soir sur des terrains de guerre et plus particulièrement en Afghanistan. Et le thème de notre conversation risque de vous surprendre d'ailleurs, car il sera question du rapport au droit et à la justice des talibans dans un contexte de guerre. Alors qu'on se les représente souvent comme des fous de Dieu, épris d'absolu, sanguinaires, un chercheur français, Adam Bachko, montre au contraire qu'ils ont réussi à mettre en place des juges impartiaux, intègres et crédibles. Et ils se sont servis de ces derniers, les talibans, pour obtenir le ralliement des esprits à leur cause. Bonsoir Adam Bachko.
Bonsoir Antoine Garapon.
Alors, on va parler d'Afghanistan, mais pour rafraîchir les mémoires de nos auditeurs, est-ce que vous pourriez leur rappeler les guerres d'Afghanistan, les talibans dans ce puzzle et dans ce domino de guerre?
La guerre d'Afghanistan commence maintenant il y a plus de 4 décennies, hein, en 1978, avec un coup d'État du Parti communiste afghan qui entraîne en retour un soulèvement notamment islamiste. Hein, les partis islamistes afghans vont s'emparer par le soulèvement du pays avec le retrait soviétique à la fin des années 80. On a une intervention soviétique en 1979.
Et bouleversement d'une société quand même extrêmement traditionnelle.
Oui, tout à fait. Bouleversement d'une société qui n'a pas connu les guerres mondiales, par exemple, et qui découvre la guerre dans tout ce qu'elle a de plus violent et de plus brutal, qui a été une découverte très brutale en Europe au début du 20e. Les Afghans le découvrent dans les années 80. Hein, les chars, les hélicoptères, tout ce qui va avec, les destructions de villages, c'est quelque chose qui vraiment apparaît pour la première fois en Afghanistan dans les années 80. Et ce bouleversement, ça va toucher tout le social. Ça va toucher les rapports de genre, ça va atteindre les rapports ethnico-confessionnels, les rapports de propriété, tout, tout, tout.
Et ensuite, il y a l'arrivée des talibans au pouvoir, je vais très vite, 96.
Tout à fait. Le retrait soviétique entraîne une guerre entre les factions de ce qu'on appelait les Moudjahidines, qui se battent entre eux, provoquant un désordre civil terrible. Et de ce désordre, au milieu des années 90, apparaît un mouvement de théologiens qui promet de rétablir l'ordre et la justice, qui sont les talibans et qui, justement, ordre et la justice était leur motto, hein, et qui, justement, s'emparent de Kaboul en 96 et installent leur régime, l'émirat islamique d'Afghanistan.
Et un régime qui, quel est son rapport au droit de ce régime? Est-ce que c'est un régime sanguinaire? C'est un régime intransigeant? Ou est-ce qu'il y a une certaine considération pour le droit et la justice?
Alors, je pense qu'ici, il ne faut pas choisir, en fait. Hein. C'est un régime qui va installer un système judiciaire sur tout le pays. Des tribunaux sont installés dès l'arrivée des talibans.
Tribunaux islamiques.
Des tribunaux islamiques, absolument, hein, avec des juges islamiques formés dans des écoles religieuses au droit islamique. Et donc, on a un système judiciaire qui s'impose dans tout le pays, une reconstruction du droit, des discussions autour de la réécriture de la Constitution, hein, qui ne se sont pas terminées en 2001 lorsque les États-Unis, à la tête d'une coalition occidentale, interviennent. Mais on a un mouvement qui va à la fois faire du droit et à la fois avoir les pratiques brutales dont on a jusqu'à aujourd'hui les images et les souvenirs pour ceux qui...
Une image qui sont un peu des clichés à vous lire, Adam Bachko.
Disons que ces images ne racontent pas toute l'histoire. Elles sont très importantes, elles sont vraies. Hein. L'image d'une femme exécutée dans le stade est quelque chose qui s'est déroulé, qui dit quelque chose du fonctionnement de ce système judiciaire. Mais il ne dit pas tout, parce que ce qu'on manque dans l'image, notamment, c'est deux choses. La première, c'est que ce système judiciaire va produire quelque chose qu'on n'a pas vu depuis le début des années 80. C'est une possibilité de se déplacer en sécurité en Afghanistan pour les gens. Et la deuxième chose que va produire ce système judiciaire, c'est des moyens de trancher des conflits qui, avec la guerre civile depuis 78-79, autour de la terre, autour des relations matrimoniales, se sont exacerbés très violemment.
C'est ça. Alors donc, ce qui est surprenant, c'est que ensuite les talibans sont chassés, ils reviennent, ils libèrent entre guillemets certaines régions. Et là, j'allais dire aux surprises de la part d'un juriste, ils misent sur une justice impartiale. Ils se donnent les moyens de proposer aux populations, qui ne les soutiennent pas nécessairement politiquement, de proposer un service public judiciaire, pourrait-on dire.
Tout à fait. Je pense qu'il faut ici même épaissir le mystère, c'est-à-dire qu'il faut se rendre compte de l'attachement, ce que représente le fait de produire un système judiciaire dans un contexte de guerre. Un système judiciaire, ça veut dire des juges formés, c'est donc des gens qui passent énormément de temps à apprendre le droit, à se former à des procédures. Un système judiciaire, ça signifie des procédures, une hiérarchie d'institutions, ça signifie une certaine régularité dans un fonctionnement institutionnel.
Et puis l'exécution des décisions de justice.
Tout à fait. Le tout avec des ressources extrêmement limitées, puisque les talibans, en perdant le pouvoir, perdent accès à la plupart des ressources qu'ils avaient, notamment celles venant de l'État afghan et de la reconnaissance.
Alors comment est-ce qu'ils vont s'y prendre pour construire un système de justice? Parce que, je préviens tout de suite nos auditeurs, ce système de justice n'est pas un système d'opérette. C'est quelque chose de crédible, de relativement crédible, Adam Bachelot.
Oui, oui, tout à fait. C'est quelque chose qui va se produire de manière très progressive. Hein. Ils vont réutiliser beaucoup de choses qu'ils ont fait à la fin des années 90. Mais quand ils se retrouvent, quand ils perdent le pouvoir en 2001, le mouvement est très largement défait. Il est très fragmenté. En 2001, la plupart des chefs s'enfuient au Pakistan, qui fournit un sanctuaire aux talibans. Et c'est à partir du Pakistan, tout au long des années 2000, que progressivement cette insurrection va se reconstruire. Elle va se reconstruire militairement, en envoyant des cadres, en essayant de remobiliser d'anciens combattants, de profiter de la déception que provoque l'intervention occidentale, qui est un élément de contexte central à la production de ce système judiciaire, mais aussi en envoyant progressivement des juges formés dans les écoles religieuses de la frontière afghano-pakistanaise pour trancher les conflits.
Et des juges qui ne sont pas nécessairement acquis à leur position politique ni aux tribus qui les soutiennent.
Alors, en fait, ces juges sont très liés aux talibans dans un sens sociologique, c'est-à-dire qu'ils viennent du même creuset. Les talibans, si on essaie de comprendre l'origine de ce mouvement au milieu des années 90, c'est un mouvement qui va se construire dans ces madrasas, ces écoles religieuses de la frontière afghano-pakistanaise, hein, qui appartiennent à un courant sunnite, un courant de l'islam sunnite très particulier, et qui vont...
Qui est le
déobandisme, qui est un courant en fait sud-asiatique, qui se construit pendant la colonisation britannique au XVIIIe siècle, et qui a ceci de particulier qu'il va se confronter au colonialisme britannique en essayant de chercher dans l'islam des manières de produire du droit et de l'action politique.
Et là, en quelque sorte, il rejoue la scène en disant aux populations afghanes, leur dire voilà, vous êtes occupés de nouveau par des armées étrangères qui ont d'abord été les Russes, ensuite les Américains et les Occidentaux, et servons-nous du droit comme une ressource contre cette mauvaise justice, on va y revenir, que nous proposons les Occidentaux.
Tout à fait. La stratégie talibane, c'est de recadrer la guerre. C'est de dire, il n'y a pas ici une intervention américaine suite au 11 septembre, une lutte contre le terrorisme et du state building, de la promotion de la démocratie. Il y a au contraire une invasion étrangère, disent les talibans. Une invasion étrangère, et nous, les talibans, le gouvernement en exil. Et toute la stratégie talibane est de se poser dans ce recadrage de la guerre comme l'état légitime et donc celui qui est à même de mettre en place un droit, de mettre en place un système judiciaire.
Ce qui est intéressant, c'est que mettre en place l'État légitime, on pourrait penser que ça passe par construire des routes, des hôpitaux, des écoles, une structure administrative. Or là, il y a une insistance sur « on va vous proposer une manière intègre, impartiale de régler les conflits selon le droit ».
Tout à fait. Et ça provient beaucoup du lien qu'il y a entre ce creuset d'école dont les chefs talibans dont beaucoup de chefs talibans sont issus, et le fait que ces écoles sont des espaces de formation de juristes islamiques. Hein. Et donc ce sont des gens qui, quelque part, politiquement, se sont socialisés dans un endroit où on forme des juristes. C'est un mouvement qui a beaucoup à voir avec le droit parce qu'il vient des institutions qui produisent les juristes.
Mais le droit, quand vous dites le droit, c'est
le droit islamique.
C'est la charia. Mais c'est la charia qui va emprunter aux coutumes. C'est une charia dure. C'est une charia qui ne s'interprète pas, ou c'est une charia qui ressemble un petit peu à un droit, j'allais dire, plus professionnel.
À cet égard-là, les talibans sont assez classiques avec l'islam sunnite tel qu'il est pratiqué en Afghanistan. Ils sont assez dans la tradition de l'islam tel que l'État afghan le promeut, parce que ces écoles religieuses sont en fait l'endroit où sont formés les juristes en droit islamique sur lequel le régime s'appuie depuis la fin du 19e siècle. C'est un droit qui se caractérise par plusieurs choses. Il est assez détaché des coutumes, même si dans la coutume, à l'inverse, il y a un usage du droit islamique. C'est un droit qui affirme la nécessité d'appliquer le Coran de manière assez littérale, hein, la notion de taqlid, l'application des hadiths telles qu'elles sont. Et donc, c'est un droit qui se prétend littéraliste, qui se revendique littéraliste, même si ça n'empêche jamais, en réalité, comme toutes les pratiques littéralistes, une marge d'interprétation. Mais c'est un droit qui est très différent, c'est un courant de jurisprudence qu'on appelle hanafi, qui est très différent du salafisme, hein, dont on parle beaucoup, parce qu'il se caractérise par une prise en compte de toute la tradition juridique depuis du 8e siècle au 13e, 14e, 15e, 16e, que réinterprète, que retravaille ces juristes des Aubandis, et qui donc n'est pas exactement un retour à l'époque du prophète, mais plutôt un classicisme juridique en termes de droit islamique.
Parce que ce qui est très intéressant, c'est que immédiatement ou assez rapidement, énormément de litiges fonciers, de vieux litiges qui n'arrivent pas à s'éteindre, vont être soumis à ces juges.
Oui, tout à fait, Antoine Garapon, et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est que les talibans vont construire leur système à partir d'un droit islamique qui, comme il est consensuel, il est assez familier, il est relativement accepté. Toute personne voyant un procès fait par un taliban a les moyens de voir si le juge est en train ou non d'appliquer le droit.
Mais c'est pas la seule chose. Et donc de le contrôler par la publicité, ce que vous dites, c'est très moderne.
Il y a une dimension de contrôle par la publicité.
C'est ça.
Mais c'est pas la seule chose. Ils vont mettre en place un système institutionnalisé pour contrôler leurs propres juges. Ça passe par des niveaux de juridiction, hein, des cours de première instance, des cours d'appel, une cour suprême qui devrait être dans l'aillement, disent les talibans, et qui est en réalité au Pakistan parce que elle serait trop vulnérable à des attaques des forces spéciales américaines. Mais aussi un système d'inspecteurs des juges. Les talibans vont mettre en place un système d'inspection pour surveiller les juges dans leur pratique, pour savoir quel juge est corrompu.
C'est ça, parce qu'il y a un problème de corruption majeur, mais pas tellement chez les juges talibans.
Oui. Assez peu chez les juges talibans. La corruption en Afghanistan est un problème qu'on va retrouver beaucoup dans le système judiciaire du côté du régime. Mais chez les talibans, au contraire, il y a une insistance sur des juges qui, pour éviter à tout prix qu'ils aient un ancrage local, tournent. Hein, ils restent entre 3 mois, 6 mois et 1 an dans la même juridiction et ils sont immédiatement déplacés.
Et ils ne sont pas chez eux. Ils ne sont pas dans
leur propre juridiction.
Ils ne sont jamais dans leur propre juridiction. Jamais dans leur propre tribu ou tissu social.
Oui, absolument. Jamais dans leur propre village, jamais dans leur propre vallée. Ce qui a un effet d'extériorité qui va leur donner une position d'être vus comme des juges qui jugent le cas et non pas seraient favorables à tel ou tel parti. Or, les conflits fonciers sont tellement violents en Afghanistan, ils sont tellement un problème essentiel. Hein. Les gens sortent de chez eux armés de peur d'avoir un voisin qui pourrait décider oui. de les éliminer du fait de ce conflit foncier, que si quelqu'un arrive avec une solution impartiale qui permet de garder la face, qui permet aussi de parce qu'il a une vraie crédibilité par l'usage de la coercition, et la coercition est clé dans le système taliban.
C'est-à-dire que les talibans exécutent les décisions que prennent les juges.
Tout à fait.
Sans discrimination.
Sans discrimination. Comme disait très bien un de mes interlocuteurs, la différence entre le gouvernement et les talibans, c'est que les talibans font ce qu'ils disent et ils disent ce qu'ils font. Et c'était une phrase très révélatrice de la part de cette personne.
C'est le fond même de la crédibilité, non,
absolument. Et cette personne était anti-taliban dans ses opinions politiques. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui était opposé aux talibans, mais lorsqu'on lui a volé du bétail, mais il est allé voir le juge taliban.
Et il a obtenu justice.
Et il a obtenu justice.
Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, en quelque sorte, les talibans, misent sur une aspiration universelle à la justice et à la paix sociale.
Oui, l'Afghanistan est à cet égard-là un cas tout à fait classique. Hein, dans toutes les guerres civiles que j'ai étudiées, en Syrie, en Irak, en République démocratique du Congo, la guerre ne met pas du tout fin au conflit privé, bien au contraire. Il y a quelque chose de très intuitif ici, la volonté de se battre pour conserver son héritage ou de se battre dans un contexte de divorce. Eh bien, le fait qu'on soit dans une situation de guerre ou pas dans une situation de guerre, ces questions restent essentielles pour les gens et les gens sont prêts à engager beaucoup d'énergie, voire de violence, hein, pour obtenir une décision en leur faveur.
Plus que sur des questions de statut personnel.
Les questions de statut personnel sont aussi clés. Surtout que la guerre, et en Afghanistan c'est très visible, les remet en cause. La guerre en Afghanistan, par exemple, a été un moment de remise en cause des hiérarchies ethniques. L'Afghanistan était historiquement un pays qui disait, où l'État refusait de parler des questions ethniques ou des questions confessionnelles, mais en refusant d'en parler, en favorisant fondamentalement les Pashtuns sunnites. Oui. Et donc, vous aviez d'autres ethnies, les Hazaras et les Tadjiks, qui étaient subalternes. Et la guerre a été un moment pour eux de prise d'autonomie, de prise d'armes, de prise d'importance politique. Et à cet égard-là, les talibans sont très ambigus. D'un côté, ils sont un mouvement Enfin, ils sont ambigus. Ils reprennent la même ambiguïté que l'État. D'un côté, ils prétendent, et dans leur action juridique, c'est très visible, qu'ils ne font pas de distinction entre les ethnies et les confessions. Et de l'autre, ils font ce que faisait l'État traditionnellement en Afghanistan, c'est-à-dire favoriser les Pashtuns sunnites.
Ah oui, donc quand même, c'est pas une impartialité absolue.
Mais ça se joue pas dans le judiciaire. C'est simplement que... On a un mouvement qui va trancher un cas également s'il a un Hazara et un Pashtun, mais les chefs du mouvement sont quasiment tous, hein, c'est pas tous, mais quasiment tous, des Pashtuns sunnites. Donc on voit bien que derrière cette revendication d'être, de traiter tous les gens également, on a en même temps un mouvement qui politiquement favorise largement les populations Pashtuns et les sunnites.
Mais ce rapport au droit des talibans, à vous lire Adam Bachko, excède la question de la justice, qui est déjà très importante, pour aller aussi, pour concerner également le statut international de l'Afghanistan. Ils sont très soucieux, les talibans sont soucieux. Alors, ce qui est assez surprenant, parce que c'est pas comme ça qu'on se les représente ici en France, ils sont assez soucieux de s'intégrer ou d'intégrer l'État ou une fraction d'État dans l'ordre international.
Oui, tout à fait, Antoine Garapon. C'est très flagrant. Il y a une différence ici fondamentale entre des mouvements comme l'État islamique qui refuse l'ordre international, qui veulent le remettre en cause, hein, et les talibans qui vont faire tout ce qu'ils peuvent à la fin des années 90 pour être reconnus. Ils ont une véritable obsession avec la reconnaissance internationale et qu'ils reproduisent... à partir de 2006, le Mollah Omar, le chef des talibans, fait un discours annuel puis biannuel de politique générale. Et dans son discours de politique générale, il y a une demande d'être reconnu comme l'État souverain. Et à cet égard-là, leurs tribunaux sont un des secteurs dans lesquels les talibans essaient de crédibiliser leurs revendications avec l'État.
Qui est mise en scène, quoi. C'est un lieu dans lequel ce rapport au droit est mis en scène et en même temps mis en effectivité du fait de l'exécution et des décisions de justice.
Tout à fait, avec un travail de comparaison ou de mise en perspective de leur système par rapport au système du régime et de profiter du fait que le système judiciaire du régime est un des secteurs qui marche le moins bien, qui est le plus corrompu, qui est le plus détesté avec la police, ce qui est aussi un élément du système judiciaire au sens étendu. Et les talibans, quelque part, se positionnent en disant « notre droit fonctionne », justement en profitant du fait que de l'autre côté, ça fonctionne mal.
Alors, il y a une sorte de guerre croisée, terriblement sanguinaire d'ailleurs, entre les forces gouvernementales et les forces américaines, et les talibans, pour exécuter les juges de l'autre, de façon à ce que il y a une véritable guerre judiciaire.
Oui, il y a une guerre autour du droit. Il y a une guerre autour du droit parce que le droit est un instrument de la guerre, mais il y a aussi une guerre autour du droit parce que le droit est un champ de bataille. Le droit est un champ de bataille où se joue la légitimité de chacun des acteurs, leur prétention, leur cadrage de la guerre, celui de dire nous sommes l'État et l'autre ne l'est pas. Et donc d'un côté, les forces spéciales, les militaires américains qui grosso modo en Afghanistan fonctionnent avec des opérations d'exécution ciblés, des forces spéciales descendent d'un hélicoptère de nuit.
Les drones aussi
bombardent, sûr. Voilà. Donc il y a une élimination ciblée de personnes dont on fait le profil.
Toujours aujourd'hui, c'est
une des raisons pour lesquelles le régime à Kaboul tient. À partir de 2009, les juges qui étaient jusque-là ignorés par l'armée américaine deviennent une des cibles privilégiées de l'armée américaine.
Parce que les Américains comprennent que se joue autour d'eux quelque chose d'essentiel qui va permettre de rallier des tribus entières à la cause talibane.
Et ils le disent, le général McChrystal qui prend le commandement des troupes américaines et occidentales en 2009 écrit un pré-rapport qui finit par être publié dans la presse, et dans son pré-rapport son analyse du problème après avoir fait une courte mission de vérification de la situation avant sa nomination, c'est que le gouvernement afghan, le régime de Kaboul ne fonctionne pas, n'est pas reconnu par les gens dans les campagnes, et qu'à l'inverse les juges talibans, eux, fonctionnent et ils pointent le judiciaire en disant mais c'est l'endroit décisif de cette guerre.
Parce que cette justice talibane marche. Vous racontez dans un article publié sur cette question, vous racontez aussi quelque chose qui est très important et qui est très important et qui doit nous faire réfléchir d'ailleurs bien au-delà du cas de l'Afghanistan, qui est l'instrumentalisation de l'étranger, de l'occupant, pour régler des vieilles querelles, c'est-à-dire des fausses dénonciations de talibans ou de fausses accusations, qui fait que l'armée américaine va éliminer physiquement des personnes dont le seul tort c'est d'être des ennemis de la famille, des ennemis de on se dispute la même terre, et donc une instrumentalisation par un occupant qui ne comprend pas les arcanes de la vie quotidienne afghane.
Oui, un occupant qui ne comprend pas et qui même par sa stratégie va aggraver cette tendance-là. Oui. C'est-à-dire que les militaires américains vont opérer en Afghanistan en partant de l'idée qu'il n'y a jamais eu d'État en Afghanistan, ce qui est tout à fait faux. Hein. Il y a une tradition étatique très forte en Afghanistan depuis la fin du 19e. Il y a tout un fonctionnement autour de l'État. Et les militaires américains vont fonctionner en Afghanistan en se disant il faut parler directement aux gens. Et donc, parler directement aux gens, c'est être dans des relations non institutionnelles, c'est leur parler, leur résoudre leurs problèmes pratiques.
Ce qui est très américain. On va faire du problem solving.
Voilà, on va faire ça informellement, on va régler ça, tout simplement. Oui. Sauf que ça ouvre, de l'autre côté, la porte à ce que des gens décident de profiter des Américains pour résoudre leurs problèmes.
C'est ça.
Les Afghans vont quelque part très bien comprendre ce que font les militaires américains et simplement exploiter cette pratique d'informalité.
Parce qu'il y a ce que vous appelez l'anthropologie imaginaire des Occidentaux sur l'Afghanistan. Il faut faire attention, on pourra faire des ponts ensuite avec la situation en Syrie et en Irak, il faut faire attention à ces clichés, mais des clichés qui semblent avoir été particulièrement déterminants dans la situation afghane, Adam Bachko.
Oui, tout à fait, Antoine Garapon, parce que l'Afghanistan, c'est un pays sur lequel on projette énormément de notre orientalisme. C'est le pays du fantasme absolu, les cavaliers de Kessel, la jeune fille sur les couvertures du National Geographic. L'Afghanistan, c'est un pays qu'on a beaucoup réduit à ce qu'on a voulu y voir. On n'a jamais voulu voir qu'il y avait une tradition étatique en Afghanistan. On n'a jamais voulu voir que les tribus afghanes, elles sont intégrées justement
dans ce système politique.
On n'a jamais voulu voir qu'en Afghanistan, on avait un système juridique dans les années 70 tout à fait construit avec un code pénal, un code de procédure pénale, un code civil.
D'inspiration continentale d'ailleurs.
Tout à fait, produit par un mélange de juristes français, turcs et indiens, et donc anglo-musulmans. Et donc on avait une tradition juridique qui a été complètement ignorée dans l'intervention. Dans l'intervention, on a balayé ça et on a envoyé des juristes italiens se sont mis à réécrire le code pénal en s'inspirant des questions de combat anti-mafia italienne. On s'est mis à réinventer le droit à partir de
On voit les ravages de l'artificialisme, en quelque sorte, du state building. Quoi. Le state building va réinventer un état idéal, qui souvent ne marche pas d'ailleurs dans les états d'origine, et qu'on va faire comme une sorte de cité idéale qui est pire que tout.
Oui, on fait des tabula rasa, on invente des procédures, et par ailleurs, on le fait en général en ne prenant pas en compte, en ne lisant pas. Il faut attendre le milieu des années 2000 pour qu'enfin on ait traduit les articles écrit jusque-là en persan ou en pachtoun du droit afghan d'avant-guerre. Et donc on découvrira tardivement dans les missions occidentales en Afghanistan qu'en fait, il y avait toute une production juridique sur laquelle on aurait pu s'appuyer et qu'on a, en la réinventant, empêché les juristes afghans de s'en emparer.
Rappelle que vous êtes sur France Culture, Matière à penser, ce soir avec Adam Bachko sur les juges talibans. Qu'est-ce que vous nous avez fait écouter là, Adam Bachko ?
C'est une chanteuse très célèbre dans le sud de l'Afghanistan qui s'appelle Narma, qui est une chanteuse pashtoune, qui est quelque part très représentative de jusqu'où la guerre va, puisque la guerre va se jouer aussi dans la musique. Narma est une femme qui va être formée par les écoles musicales communistes dans les années 80, qui va à cet égard-là incarner la révolution que cherchent à faire les communistes dans la société afghane en faisant chanter une femme des chants traditionnels.
C'est ça, en mettant en avant la femme.
Et qui va fuir le pays avec la guerre civile dans les années 90 et faire partie des musiques que les talibans interdisent.
C'est ça.
Quelques années plus tard.
Alors, c'est très intéressant. On est frappé par l'influence indienne, entre parenthèses.
Oui, oui. L'Afghanistan, à cet égard-là, culturellement, est vraiment très ancré dans l'Asie du Sud. Hein. Il y a plein de choses qui sont très influencées par le continent indien. Et encore plus aujourd'hui qu'avant, puisque les musiques qu'écoutent les jeunes Afghans, soit ce sont ces choses-là un peu traditionnelles, mais sinon, c'est beaucoup la musique contemporaine indienne. Dans les taxis, c'est ça que vous entendez.
Bollywood.
Bollywood, oui.
Bollywood. Mais alors, vous avez travaillé sur le terrain afghan, comme les auditeurs ont pu s'en rendre compte, et vous avez travaillé aussi sur le terrain irako-syrien en étudiant le rapport au droit de Daesh. Alors, c'est intéressant cette comparaison parce que on est à l'opposé. On a l'impression, je parle sous votre contrôle, que les talibans cherchent à opérer une révolution conservatrice qui passe par le droit et qui passe par la restauration d'un ordre juridique qui prend des caractères occidentaux, l'impartialité, l'intégrité, qui sont peut-être universels. Et d'autre part, une révolution Daesh qui méprise le droit international, extraordinairement violente, beaucoup plus violente, dont les juges sont incroyablement violents, et qui cherche à construire un homme nouveau qui n'est pas dans ce conservatisme ou dans un autre conservatisme.
Oui, oui, tout à fait. Il est déjà une première remarque ici, Antoine Garapon, c'est de dire à quel point il faut pas s'arrêter à charia et droit islamique, qui sont des mots qui nous font peur. Il faut aller
qui
voir derrière.
Qui empêche de penser. On a l'impression que dès qu'on pense charia, on pense plus droit.
Dans notre ouvrage sur la Syrie, ce qu'on a essayé de montrer, c'est que des pans de l'insurrection à Alep vont construire un droit islamique, au contraire, sur des bases très institutionnelles, codifiées, cherchant à rentrer dans les critères internationaux tels qu'ils arrivent à les suivre, à les lire. Ils reprennent le code de la police des Nations Unies.
Mais ils sont soutenus par les Anglo-Américains.
Absolument, ils ont des formations avec des juristes anglais et américains qui les forment à comment produire du droit.
Les Français s'y refusent.
Les Français s'y refusent sur la question juridique. Et les Américains, au contraire, ont une espèce de pratique très pragmatique. C'était des séminaires dans des hôtels turcs ou jordaniens où on formait en deux jours, on est censé en deux jours avoir formé quelqu'un au droit, ce qui évidemment vous donne une idée. Tout à fait. L'État islamique va aussi reprendre des éléments quelque part de cette vision occidentale du droit avec auquel sont confrontés tout le monde, tous les mondes musulmans, parce qu'il y en a pas qu'un, mais l'État islamique va ici le faire dans une vision beaucoup plus confrontationnelle. Et ce qu'on voit quand on regarde la manière dont eux produisent leur système institutionnel, c'est à quel point ils vont produire un système institutionnel en rejet de l'ordre international, au contraire.
Mais qui reste quand même un ordre institutionnel.
Très, très, et très institutionnel, construit sur... On voit toute la culture baasiste de l'Irak, hein, parce que l'État islamique, c'est fondamentalement un mouvement qui sort de la guerre d'Irak, du choix des Américains en Irak, de licencier tous les gens liés au parti Baas, le parti de Saddam Hussein.
Et du coup, qui vont se retrouver dans ISIS, dans Daesh.
Tout à fait. Et l'État islamique, c'est fondamentalement l'hybridation entre... les hauts fonctionnaires du régime irakien des années 90-2000, enfin avant 2003, et de l'autre côté Al-Qaïda. Hein, et donc il y a quelque chose de cet étatisme irakien qu'on va retrouver dans l'État islamique, mais avec un projet de révolution qui est plus du tout conservatrice. Là c'est une révolution beaucoup plus totale, beaucoup plus large,
et beaucoup plus totalitaire, qui ressemble beaucoup plus aux révolutions, aux régimes totalitaires européens du premier et XXe siècle.
Alors moi, quand j'écoutais les témoignages des gens qui sortaient des zones de l'État islamique, l'image qui me revenait, c'était les Khmers rouges. Les Khmers rouges, pour une raison très simple, c'était la dimension d'écart par rapport à tout ce qui se passait autour des Khmers rouges, cette volonté de reconstruire de la base de
ab initio, tabula rasa.
Voilà, une vraie tabula rasa qu'on voit dans le droit, puisque les tribunaux de l'État islamique sont des tribunaux complètement détachés des problèmes des gens, hein, là où les talibans vont s'attacher à résoudre les conflits fonciers en priorité, car ce sont les conflits principaux des gens en Afghanistan, eh bien l'État islamique va utiliser ces tribunaux pour imposer son ordre.
C'est ça. Il ne faut pas faire la même erreur que celle qu'on a faite pour le stalinisme, qui consiste à croire qu'il s'agit d'une dictature sanguinaire et ajuridique. Il y a quelque chose qui est très difficile à penser pour nous autres occidentaux, qu'on soit sociologue, anthropologue ou juriste, c'est que ces régimes, ce qu'a très bien montré Claude Lefort dans La Complication, ces régimes fonctionnait à la loi. C'est ça qui est, fonctionnait à une loi. Une loi qui est celle de la fusion dans le grand 1, qui est une loi, la loi de l'histoire avec sa grande hache, comme disait Camus, ou la loi de la nature. Mais il y a une loi derrière ces régimes totalitaires, y compris pour Daesh.
Oui, oui, et à cet égard, ce sont des mouvements modernes. On a envie de les rejeter dans l'archaïsme, les qualificatifs de moyenâgeux, qui empêchent fondamentalement de comprendre à quel point ces mouvements sont intrinsèquement modernes, sont intrinsèquement pris dans un conflit avec tout ce qui se joue dans notre modernité. Ce sont des mouvements qui s'interrogent sur le droit, qui font du droit et qui se construisent à travers le droit.
Et alors, avec cette idée que le droit doit permettre, ce qui est une idée profondément révolutionnaire de la Révolution française, que le droit va produire un homme nouveau.
Oui, oui, chez l'État islamique, il y a l'idée que si on fait le droit correctement, en application cette fois, en rejet de toutes les écoles de jurisprudence, de tous ces juristes post-7e siècle, si enfin on aurait une pratique juridique qui sera suffisamment rigoureuse, eh bien on aura une société qui sera fonctionnelle. Et c'est quelque chose qu'on retrouve, alors de manière cette fois très différente chez les talibans. Il y a chez les talibans une obsession, lorsqu'ils sont au pouvoir entre 96 et 2001, à produire des décrets, à interdire. Alors il y a les interdictions qu'on a connues, les cerfs-volants...
Mais
ils se mettent à interdire tout et rien. Ils interdisent les cartes de Noël, ouais. Les jeux, les homards. Il n'y a pas d'homards en Afghanistan, il n'y a pas de mer en Afghanistan. Ouais. Mais ces interdictions, certaines très graves, certaines touchant le quotidien des gens, comme l'interdiction des femmes dans les hôpitaux ou dans les écoles, et de l'autre côté, les interdictions les plus loufoques, montrent une obsession du droit. L'idée que si on légifère suffisamment, eh bien la société sera réglée. Si on fait suffisamment de droits, les relations vont être fonctionnelles, les relations vont s'apaiser. Il suffirait juste de faire quelques décrets de plus, encore un peu plus de droits. Et donc, les talibans sont pas du tout un mouvement qui ne pense pas le droit. Ils sont obsédés par le droit islamique, mais ils se sont obsédés dans l'idée que le droit islamique va permettre de réguler la société.
Et donc, il y a cette idée que la révolution, qui est là encore une fois très difficile à comprendre, va se réaliser par le droit, et le droit qui est adossé à un transcendant concernant l'Afghanistan comme Daesh. C'est la grande différence avec les Khmers rouges.
Oui, oui, tout à fait, Antoine Garpin, vous avez tout à fait raison. La dimension religieuse et la transcendance sont clés parce que elle détermine la manière dont non seulement ces mouvements vont produire du droit, mais ce qu'ils peuvent en faire. Hein. Et on a en face de nous, quand on regarde les talibans ou l'État islamique, des mouvements qui vont fonctionner dans les contraintes des sociétés dans lesquelles ils sont plus ou moins. Alors l'État islamique quasiment pas, les talibans énormément, mais aussi dans les contraintes de leur propre pensée. Chez les talibans, dans les années 90, pour vous donner un autre exemple qui montre les difficultés qu'avaient les talibans avec leurs propres droits, en même temps qu'ils en étaient obsédés, ils interdisent les femmes dans les hôpitaux. Le problème, c'est qu'ils ont besoin de pouvoir parfois traiter les femmes quand elles sont malades. Et donc, Mollah Omar va laisser en douce, en le cachant, un programme permettant à des femmes dans un hôpital de Kaboul de travailler. Et donc, il va donc autoriser quelque chose qu'il a lui-même interdit.
Hein. Parce qu'il faut des médecins,
parce qu'il faut quand même des médecins. Oui. Et donc, on a des mouvements qui parfois sont aussi bloqués par leur propre manière de penser le droit et le social.
Parce que c'est une manière radicale. Alors, en ce qui concerne Daesh, qui est une manière extrêmement abstraite, on retrouve cette dimension abstraite du totalitarisme, où on préfère l'abstrait de la loi à la réalité de la sociologie, la réalité des mœurs, en quelque sorte.
Tout à fait, ça se voit dans la manière dont il faut lire les magazines officiels de l'État islamique. Quand on les lit, il y a un choc de langage. C'est un univers complètement alternatif. Hein. On a parlé, nous, dans notre ouvrage, de dissonance cognitive pour essayer de rendre compte de ça. C'est un univers qui est à la fois très cohérent idéologiquement. C'est un univers qui n'empêche pas de la rationalisation, de la mise en place de procédures d'institutions. Mais en même temps, c'est un univers complètement fermé où l'arrivée de l'apocalypse chez l'État islamique est une perspective
mais qui est prise en compte comme un fait réel, alors, pour le coup.
Oui, tout à fait. C'est le nom du magazine principal du mouvement qui s'appelait Dabiq, qui était l'endroit, la ville où devait se produire l'apocalypse, qui d'ailleurs a changé de nom le jour où Dabiq a été reprise, parce que c'est une ville en Syrie, a été reprise à l'État islamique, donc il a fallu vite changer de nom puisque c'était une de leurs légitimités de tenir Dabiq. On a un mouvement qui à travers ce langage apocalyptique, à travers cette promesse de l'arrivée d'une apocalypse promettait une victoire certaine en dépit des défaites. Et c'est un véritable univers mental dans lequel s'est construit le mouvement.
Qu'est-ce que vous entendez exactement par dissonance cognitive? Parce que c'est un concept qui est effectivement stimulant et qui va nous permettre peut-être de comprendre la distance qu'il y a, qui nous permet de comprendre notre incapacité à saisir justement ce que vous cherchez à nous expliquer sur ce rapport au droit si étranger au nôtre.
Oui, c'est une notion qui a été créée en psychologie pour essayer de rendre compte de situations d'altérité radicale dans lesquelles on a tout le problème qu'a eu la psychologie de penser le nazisme ou le communisme, de voir des gens qui effectivement sont de véritables pratiquants, mais aussi parfois de véritables croyants, hein, et pour autant on voit plein de processus liés à l'irrationalité, mais en même temps on voit plein de processus très rationnels dans l'action. Et de penser le fait que comment dire, il y a un régime de vérité, pour parler comme pour reprendre les termes de Foucault, il y a un régime de vérité propre à l'État islamique. Les militants de l'État islamique croient dans ce qu'ils font, et ils croient que ce qu'ils font est vrai. Et donc,
plus
ils vont
vrai
agir,
que réel.
Voilà, ils vont agir en fonction de ses fins. Ils vont agir très rationnellement en fonction de ses fins. Et ce régime de vérité qui nous est complètement, radicalement différent, parce que nous ne croyons pas que l'apocalypse est imminente, qu'elle va se produire demain.
Oui, il est reversé dans les croyances individuelles. Il n'y a pas de croyance collective.
Voilà, exactement. Il n'y a pas une croyance. On n'a pas organisé notre société autour de ça. L'État islamique va essayer d'organiser la société autour de ça. Les militants de l'État islamique. Et là, il faut bien différencier, parce que c'est une croyance collective qui ne correspond pas à la société irakienne, qui ne correspond pas à ce qu'a vécu la société syrienne qui a été prise dans l'action de ce mouvement. Eh bien, l'État islamique, quand il agit dans cet univers fermé qui s'est construit dans la clandestinité. Il faut imaginer un mouvement qui s'est construit alors que les forces spéciales américaines dans les années 2000 en Irak traquaient tout militant lié à Al-Qaïda ou à l'État islamique. Ce sont des gens qui se sont construits dans la clandestinité, en petits groupes, avec une fermeture sur eux-mêmes, qui ont construit leur propre univers.
Parce qu'ils étaient persécutés de manière absolument impitoyable.
Absolument.
Alors, ce qui est très intéressant, c'est peut-être là où on ressent le mieux la distance, l'étrangeté, mais également la réalité de ce rapport à la loi. Je fais référence à ce passage de la complication de Claude Lefort où il dit, pour comprendre comment fonctionnait la loi dans le régime soviétique, il faut voir ces échanges entre un interrogateur et un membre du Parti communiste. L'interrogateur sait que le membre du Parti communiste n'a rien fait, mais pourtant il l'accuse et il invite la personne qui n'a rien fait à reconnaître quand même sa culpabilité, parce que c'est une exigence du parti. Et sous-entendu, il dit, nous appartenons tous à la loi, avec un L majuscule, et quand on aura compris ça, on aura compris la nature du régime soviétique. Là, ce qui est très intriguant dans le cas de Daesh, c'est le nombre de cadres Daesh qui sont victimes de cette loi islamique. Elle n'est pas réservée qu'aux infidèles, aux koufars, aux non-convertis. Elle est impitoyable, y compris pour les cadres de l'État islamique.
Enfin, on retrouve quelque chose qui est propre au mouvement partisan les plus durs depuis le XXe siècle.
Même chose au Cambodge.
La violence vers l'interne.
Bien sûr.
La purge. La purge est un élément clé de tous les grands mouvements politiques violents depuis le début du XXe siècle. Et on va on voit à nouveau les différences entre une insurrection syrienne qui entre 2011 et 2014 est incapable de purger ses rangs, un État islamique qui passe son temps à faire des purges et à produire des militants.
Mais elle ne
de
peut
plus
pas
plus
purger
durs.
Parce qu'elle est démocratique, justement.
Par certains égards, tout à fait. Et des talibans qui sont beaucoup plus précautionneux. Il y a des concurrences à l'intérieur du mouvement. C'est un mouvement beaucoup plus pragmatique politiquement, qui a des perspectives de négociation, qui espère prendre le pouvoir, qui a acquis une expérience. Il faut pas oublier que les talibans ont été 5 ans au pouvoir en Afghanistan. Ils ont déjà une expérience d'homme d'État. Ils sont arrivés, la naïveté de l'arrivée des talibans en 96, comme les bassistes. Ils savent ce qu'est un État et ils veulent le devenir. Et donc, on a ici un mouvement qui va être, au contraire, dans beaucoup de compromis, de négociations avec des pans de la société, mais aussi avec eux-mêmes.
Mais alors, cette mécanique de la purge, qui est un signe d'ailleurs de cette loi totalitaire, mais bien de cette loi. Il est très difficile à comprendre. Je voudrais vous demander, Adam Bachko, vous travaillez, comme on l'aura compris, sur des théâtres particulièrement difficiles, et vous travaillez en sociologue, en anthropologue, je ne sais pas si vous acceptez ce terme, c'est-à-dire en essayant de comprendre les logiques sociales, sans vous laisser obnubiler par la guerre, obnubiler par la violence. Est-ce qu'on ne pourrait pas appliquer cette idée de dissonance cognitive aussi à la recherche occidentale, américaine, française, européenne, sur Daesh ou sur les talibans, ou d'ailleurs aussi bien sur le Cambodge, qui résiste beaucoup, qui ne comprend pas fondamentalement ce qui se passe.
Oui, il y a une vraie difficulté pour les chercheurs de rendre compte d'un mouvement comme l'État islamique pour plusieurs raisons. La première, c'est très simplement la disponibilité des sources. Hein. Je suis impatient de voir le moment où on aura un travail sur des sources plus étendues sur l'État islamique, et ça se produira parce que de nombreux documents ont été capturés, donc petit à petit, on va commencer à avoir des travaux qui vont sortir.
Qui fait ce travail-là?
Pour l'instant, le travail sur l'État islamique est fait avec peu de documents et donc il est très abstrait à cet égard-là et il nous amène à être dans nos propres contradictions. Il y a une pression énorme d'un côté à ce que les chercheurs disent quelque chose sur un mouvement qu'on connaît mal et en même temps qu'ils le disent dans une société où on a de plus en plus de mal à parler de ces questions-là,
qui attend une vision particulière.
Et donc on a des débats très très violents entre spécialistes de l'islam politique aujourd'hui. Alors que je pense qu'on peut le dire, on a des travaux très divers. On a une école de pensée sur l'islam politique en France qui est peut-être la meilleure au monde. Hein. Le triangle que représentent des gens comme Gilles Kepel, François Burga, Olivier Roy représente à cet égard-là une et tous les gens qui travaillent autour, hein, Stéphane Lacroix, Laurent Bonnefoy. Enfin, on a une école.
Il y a
beaucoup de monde qui écrivent beaucoup de choses et parfois des choses vraiment vraiment très bien. Qui sont souvent dans des débats très forts les uns avec les autres parce qu'il y a de vrais désaccords, mais aussi parfois parce qu'ils ne parlent pas de la même chose.
C'est ça. Mais c'est particulièrement difficile parce que les attentes... Et parce que, par exemple, on pourrait vous accuser, les auditeurs vous auront entendu sur les talibans et sur le regard que vous portez sur rapport aux droits des talibans. Vous n'avez pas peur qu'immédiatement on dise « Ah, mais c'est une trop grande empathie à l'égard de ce mouvement terrible et sanguinaire que sont les talibans, ou qui doivent en quelque sorte envelopper tout ce qu'ils font de la même illégitimité. » Mais c'est plus compliqué que ça.
Tout à fait, Antoine Garapon, et c'est toute la difficulté à travailler sur les mouvements qu'on a du mal à comprendre, sur les objets détestables. C'est comme ça qu'on dit en sociologie. Les talibans sont à cet égard-là un exemple typique de ces objets détestables. Et donc, si on veut les comprendre, on est obligé, plutôt que justement d'être immédiatement de les balayer d'un revers de main en se disant c'est un mouvement archaïque, c'est un mouvement moyenâgeux, de faire un effort de comprendre quelle est la logique dans laquelle ils agissent. Et à cet égard-là, le fait que les talibans puissent être pour moi un mouvement détestable n'est pas la question dans laquelle le travail que je dois faire. Mon travail à moi, quelque part, c'est d'essayer de comprendre ce que les talibans font et les logiques derrière leur action, plutôt que d'émettre immédiatement un jugement
c'est
de
ça,
valeur
vous
que
suspendez
je ressens,
le jugement.
Pas le problème. Je suspends le jugement.
C'est ça.
Pendant que je travaille.
C'est ça. Pour comprendre et pour le comprendre à partir de l'intérieur, de leurs croyances, fût-elles des croyances folles.
Tout à fait. Et il n'y a pas, je pense qu'il n'y a pas d'autre manière de comprendre des mouvements qui sont radicalement différents et face auxquels nous échouons de manière de plus en plus forte dans notre action. Je pense qu'on ne pourra jamais agir de manière efficace en Afghanistan, en Syrie, en Irak ou encore au Mali, si on ne parvient pas à avoir une meilleure compréhension des motivations, de la vision, des demandes qu'ont ces mouvements-là.
Est-ce que vous n'êtes pas victime, j'entends, est-ce que les chercheurs qui travaillent sur des objets détestables ne sont pas victimes d'une caractéristique, moi qui me frappe beaucoup, d'une sorte d'impatience médiatique qui veut à la fois un jugement de réalité, un jugement de valeur, d'impatience stratégique aussi, on veut quelque chose d'opérationnel tout de suite, alors que le temps de la recherche n'est pas uniquement un temps à part, c'est aussi ce que vous décrivez, cette sorte de temporalité où vous commencez par comprendre sans juger et peut-être pour laisser à d'autres la possibilité de juger.
Oui, et même pour aller plus loin, on est victime d'une certaine méfiance quelque part. Il y a aujourd'hui l'idée que la sociologie desquelles expliquerait, excuserait,
oui,
pour reprendre les termes d'un ancien Premier ministre. Et cette méfiance, c'est très grave parce qu'elle empêche d'avoir des gens qui vont s'efforcer à distance de comprendre de telle sorte à ce qu'on puisse aussi penser une action publique. Il y a à cet égard-là une utilité du chercheur qui est celle de prendre de la distance par rapport aux autres acteurs sociaux.
Eh bien, nous resterons sur ce vœu, Adam Bachko, avec vous. Merci beaucoup pour cette émission.
Merci Antoine Garapon.
Matière à penser, Adam Bachko, Cédric Châtelus et Amboutata. Anne-Pascale Desvignes, Antoine Garapon.